vous invite dans son repère sonore, une émission de radio dédiée aux découvertes musicales inusitées, rafraîchissantes et audacieuses. Votre hôte Kim Rose Marleau vous attend les lundis à 11h avec un contenu éclectique et surprenant. La Lézarde, c'est sur Chiz 94.3.
Tu cherches une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le Centre Hub Créatif. Le Centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Ce week-end, les Remparts vous promettent deux gros matchs au Centre Vidéotron. Vendredi 23 janvier, 19h, contre l'Armada. Place au match Héritage. En hommage au blizzard du séminaire Saint-François, les Remparts porteront un chandail spécial pour célébrer l'histoire qui relie les deux équipes. Dimanche 25 janvier, 15h, face aux Wildcats, place au match de la relève, présenté par CGI et Enfants Soleil. Les enfants prennent le contrôle du Centre Vidéotron comme mini-stagiaires et l'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins. Billets en vente au rempart.ca.
Le festival Le Focus est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présenté par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gabé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au focoff.com.
Il est 4h.
Bon mardi à tous. Vous êtes à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel alternatif, ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour commencer l'émission d'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir avec moi Élise Rivray. Bonjour!
Hello!
Alors aujourd'hui, Élise, on va pas parler d'art visuel ensemble, mais on va recevoir un projet musical en entrevue. Qui s'agit-il?
On va recevoir Bioscope, le projet de Annick Doré et de Claude Charnier. Donc on va pouvoir parler de leur, particulièrement de leur nouveau single, mais aussi de leur groupe en général.
Par la suite, on a une grosse émission devant nous. On va beaucoup parler cinéma aujourd'hui également à Chérie J'arrive. À 16h30, on va recevoir Ariane Roy-Poirier, qui est la directrice générale et artistique du festival de court-métrage Plein Écran, qui commence dès demain et qui se poursuit jusqu'au 31 janvier 2026. Elle a lieu à Montréal et en ligne. À 16h45, on va parler avec une étudiante, Florence Brousseau, qui est étudiante au baccalauréat en cinéma à l'Université Laval. On va parler de leur campagne de sociofinancement pour soutenir la réalisation de leur court-métrage de fin d'études. Et à 17h, on va parler avec votre chroniqueur littérature, Alex Tremblay-Lamarche. Alors, tel qu'annoncé, je suis très heureuse de recevoir avec moi en studio et à l'autre bout du fil le projet Bioscope. Salut à vous deux, Annick et Claude.
Allô! On est très heureux d'être ici, d'être reçu à Chérie J'arrive.
Alors, Bioscope, c'est un projet, un projet émergent quand même. Vous avez seulement deux singles à votre actif, mais vous êtes quand même dans la scène musicale québécoise depuis de nombreuses années déjà, là, depuis le début des années, fin des années 90, début 2000. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez deux parcours différents dans des niches musicales différentes, mais qui sont super complémentaires. Claude, toi, comment t'es bien connu dans la scène plus industrielle, dans la scène électro, et toi, Annick, bien connu aussi avec ton projet Annick, qui a beaucoup percé au début des années 2000. Pouvez-vous nous parler un peu de vos débuts dans l'univers musical québécois, puis comment est-ce que vos deux univers distinctifs se sont rencontrés pour faire Bioscope?
Ben, je vais commencer, je dirais, c'est ça, dans le début des années 2000, moi, j'ai eu un band pendant plusieurs années, donc on a produit trois albums qui étaient plus dans le rock, stoner rock. C'est à cette époque-là à peu près que j'ai rencontré Claude, un petit peu avant. Moi, ça m'intéressait son travail artistique, tout ça. On a beaucoup souvent échangé sur la musique, mais c'est juste dernièrement là qu'on s'est dit, hey, on essaye-tu de faire une toune ensemble? jambes. Et là est née la magie de Bioscope, vraiment. Je vais laisser Claude parler de lui et de ses débuts.
Merci, Annick. Ben, pour ma part, comme vous l'avez dit, dans mon parcours, j'ai évolué essentiellement dans la musique industrielle, principalement dans les années 90 avec un band qui s'appelait Insurgent. Un peu comme Bioscope, c'était un duo Montréal-Québec. Donc, quelques albums avec Insurgent dans les années 90. Et dans les années 2000, c'est avec un projet qui s'appelle Etican que j'ai principalement œuvré, autant à Montréal autant au Québec qu'à l'étranger, mm-hmm. avec ce projet-là. Et plus récemment, c'est avec un projet qui s'appelle Ether Pilot, avec lequel je fais mes parutions.
Puis là, justement, c'est un peu un mélange de Québec-Montréal. Là. Donc, dans vos deux cas, vous avez quand même un peu travaillé à distance. Comment ça se passe, ce partenariat-là, à distance? C'est quoi votre processus de création, en général, avec Bioscope ou, exemple, dans vos anciens projets là, à distance?
Bien, pour l'instant, pour Bioscope, comment ça fonctionne? C'est Claude qui m'a transmis des tracks de musique, on va dire. On s'envoie ça par courriel ou des liens, peu importe. À partir de ça, moi, je travaille à Québec dans mon local de pratique. Donc, je développe, j'ai 100% ma créativité. Tu sais, Claude me dit pas va-t'en dans ce sens-là. Donc, lui, il compose de son côté. Moi aussi, la création, ça se passe dans mon local de musique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il m'envoie des waves, je travaille, j'enregistre, j'y repitche les waves. Puis Claude, souvent, il fait un travail final là, quand j'ai terminé de mon côté.
Donc, vous créez vraiment votre musicalité ensemble, mais comme séparément.
Tout à fait.
Puis ce qui est intéressant dans le projet, c'est, puis comme je l'ai un peu nommé aussi au début de l'entrevue, c'est que tu sais, vous venez de des parcours musicaux assez différents, mais qui sont super complémentaires musicalement. Tu sais, quand tu vois l'électro-rock, tu dis, c'est comme surprenant parce que c'est pas un genre musical qu'on voit tout le temps, mais ça fonctionne super bien justement. Puis je trouve que ça l'unit bien vos deux univers. Là.
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y avait peut-être un petit doute au début, c'est-à-dire comment ces deux univers-là peuvent se rencontrer. Ouais. Est-ce que ça peut donner quelque chose d'intéressant? Puis visiblement, l'alchimie s'est créée, là, puis on trippe beaucoup.
Puis est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des... Là, il y a deux singles qui ont paru, paru un en 2025 avec Cowboy et Excuses qui est paru au début 2026. Là, c'est tout récent, 11 janvier pour être plus précis. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de l'histoire derrière ces deux singles-là, s'il y en a une?
Claude, est-ce que tu veux en parler un petit peu?
Oui, ben enfin, ce que je peux dire, c'est que ce sont essentiellement les premières maquettes qu'on a travaillées ensemble, Cowboy. Je me rappelle, il y a peut-être un an de ça, après que j'ai partagé des maquettes à Annick, elle m'est revenue avec cette première chanson-là, puis j'ai été... immédiatement séduit là, par le potentiel. Maintenant, au niveau des paroles, au niveau des textes, je te repasserai le micro, Annick.
Oui, pour ce qui est des textes, c'est sûr que bon, c'est un peu, ça vient de moi, je veux dire, je me pose pas de questions. C'est un processus créatif, je me laisse aller là-dedans.
Est-ce que tu te laisses inspirer justement par comme la musique, puis est-ce que c'est justement... La musique qui t'a inspiré, qui t'a un peu inspiré les textes? Comme,
tout à fait. Tout à fait, Noémie.
C'est-tu un peu. Est-ce que t'as une démarche un peu de. Comment? D'écriture intuitive? Genre, t'écoutes la musique, puis là, genre, tu barbouilles sur un papier différents mots, différentes idées, puis après, ça se construit?
Oui, tout à fait. C'est vraiment en écoutant les tracks de Claude, là, dans le tapis, que là, j'ai comme. Là, les mélodies commencent à sortir, les mots commencent à sortir, là, ça se place tranquillement. C'est vraiment comme ça.
Puis, y a-tu des événements d'inspiration, que ce soit, exemple, de toi côté, toi pour Claude, pour la musique, exemple, la musicalité, est-ce que tu as des inspirations qui viennent ou, exemple, avec les différentes paroles de Annick, est-ce que tu trouves, exemple, d'autres choses à mixer ou...
Oui, définitivement. Ben, à l'origine, c'est sûr que je voulais proposer quelque chose à Annick qui ferait en sorte qu'on se rejoindrait. Donc, vous l'avez dit, là, c'est vraiment un mélange un peu hétéroclite de genre. Puis moi, ça me sortait de ma zone de confort. Donc, c'était comme un plaisir d'essayer quelque chose qui peut-être interpellerait Annick. Avec beaucoup de plaisir, j'ai constaté que c'était le cas. C'est un dialogue aussi, parce que une fois qu'Annick me renvoie le vocal, là, j'essaie autre chose. Puis ça nous amène des fois dans des... parce qu'on a quand même beaucoup de pièces qui sont en travail et en cours en ce moment, dans lesquelles on se permet d'explorer d'autres avenues que qu'est-ce qu'on propose actuellement.
Puis est-ce que, je suis curieuse aussi de savoir, tu sais, considérant que vous avez comme commencé à vous développer artistiquement dans le début des années 2000, qu'est-ce qui a évolué ou même changé, tu sais, au niveau autant de la musicalité que de la production, justement, de musique, tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui ont changé puis qui se font différemment, justement.
Bien, juste les médias sociaux, je veux dire, tu sais, on est perdu, là, à l'époque, ça se passait pas du tout comme ça, les communications, je veux dire, là, c'est rentré dans la nouvelle ère des médias sociaux, se créer des sites sur toutes les plateformes. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque.
Avant, t'envoyais ton CD, justement, à une radio.
Voilà.
Puis comme si la radio l'écoutait, passait le CD, puis datit, c'est le même, ça fonctionnait. Là.
Oh oui, c'est vraiment très différent, puis on doit s'adapter. Ben c'est correct, c'est stimulant, puis c'est ça. Là, faut être up to date aussi avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Là, avec voilà. Claude, toi, tu...
Oui, ben je peux peut-être ajouter un point sur la production, parce que dans les années 90, lors des premières parutions auxquelles j'ai participé, ben il fallait aller en studio si on voulait sortir de quoi qui avait une certaine qualité. Au niveau du rendu. Puis là, ce qui est intéressant, puis on le constate quand on travaille ensemble, ben on peut tout faire à la maison, soit en studio pour les enregistrements dans le cas de d'Annick, mais dans mon cas, toute la musique se fait à la maison dans un studio qui nous permet d'avoir un son là, qui est comparable à ce qu'on retrouve à certains égards dans le milieu.
Puis comment, puis je suis curieuse de savoir, Claude, comment est-ce que, tu sais, la musique, justement, surtout industrielle, était vraiment à son pic, là, au début des années, dans les années 90, début 2000. Comment est-ce que, justement, ce style de musique-là a peut-être évolué au fil des années, puis comment est-ce que tu vois, justement, le portrait de la musique électronique québécoise actuelle?
C'est vraiment intéressant. Écoute, il y a beaucoup d'artistes qui proposent des projets fort intéressants en ce moment. Ça a beaucoup évolué. Le style de musique industrielle, je pense qu'il a un peu stagné en tant que tel, comme bien des styles qui atteignent leur apogée. Là. Mm-hmm. C'est en sorte que moi, j'ai cherché à m'éloigner un peu aussi de ça pour me renouveler. Mais cela dit, en termes de musique intense, sombre, avec une... Il y a des projets fort intéressants au Québec, que ce soit à Québec même et à Montréal, de façon générale aussi, là, mais j'entends des choses fort intéressantes récemment.
Ouais, je pense juste à je sais pas si vous en avez entendu parler, là, au collectif Gloom Room, qui met de l'avant, justement, ils organisent des soirées de musique électronique, mais plus genre goth, industriel et tout ça, tu sais. Fait que je sens quand même qu'il y a cette connexion-là qui se crée aussi dans la ville de Québec, là. Fait que ça, c'est comme vraiment cool. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, là, mais à regarder, peut-être.
Effectivement. Puis sinon, Claude, j'avais vu que tu t'occupais un peu plus du côté visuel. Donc là, tantôt, on parlait genre des réseaux sociaux, des sites web, etc. Mm-hmm. Donc c'est comme un peu une nouveauté, un peu plus, en fait, un peu plus poussée que, exemple, dans les années 2000, plus le côté visuel. C'est quoi, exemple, tes inspirations artistiques? Exemple, c'est sûr que moi, je suis une fille d'art visuel. Donc, quand on parle de visuel, d'identité aussi musicale, mais plus, exemple, pour les pochettes d'albums, c'est quoi qui t'inspire? Comment tu trouves le visuel de Bioscope?
Ben, le cinéma. Le cinéma, c'est une influence de toujours. Très jeune, dans les années 70, j'étais inspiré par la musique de film, la musique électronique de film, les films de science-fiction. Donc, depuis les années 90, je m'efforce à créer des visuels, des vidéos. J'ai fait des vidéos pour Insurgent à l'époque, fait des vidéos pour certains de nos projets au début des années 2000. Et là aujourd'hui, ben les moyens sont là pour nous permettre de produire encore là des résultats quand même fort intéressants. Puis pour venir à ta question, ben c'est ça, le cinéma, le design, l'architecture, je pense que c'est des éléments qui inspirent ma démarche.
Puis comment décris-tu le visuel Bioscope, exemple, pour ceux qui sont en ligne puis qui ne comprennent pas, genre, exemple, qui ne l'ont pas encore vu, le visuel Bioscope?
Bonne question. Disons qu'on, pour l'instant, écoute, c'est deux vidéos, c'est deux chansons. On essaye entre le clair et l'obscur. Cowboy, c'est un visuel qui est très, très chaleureux, très... ça se déroule dans la ville à Montréal, donc c'est très urbain. Très contemporain, je pense, comme design, un peu punk sur les bars. Alors que Excuse, c'est très différent. C'est la chanson est plus sombre, le visuel l'accompagne. Il s'est inspiré beaucoup du film Sin City. Okay. Et de la bande dessinée aussi, là. Mais donc en clair-obscur, en noir et blanc, très prononcé. C'est ce qu'on retrouve dans le visuel de la dernière chanson, Excuse.
Puis je trouve que ce clair-obscur-là se représente autant visuellement, mais aussi musicalement. Là. Fait que je trouve que ça fait un bel écho justement à votre univers musical.
Puis de ton côté, Annick, comment tu vois ça, le visuel ou l'identité Bioscope en général?
Ben moi, c'est nouveau pour moi, c'est ça, de développer tout l'aspect visuel du band. Ben moi, ça me fait triper. Écoute, c'est de la nouveauté. Fait que de faire le vidéo, la vidéo, c'est nous autres qui l'autoproduit à 100%. Chaque scène, c'est nous qui l'avons réfléchi, plus Claude avec sa comparse Hélène. Moi, j'embarque là-dedans. Moi, ça m'apporte de la folie, tout ça. Moi, c'est ça. Ouais.
Oui, faut le mentionner, on a notre comparse Hélène Fortin qui s'ajoute au groupe pour l'aspect visuel. Elle travaille avec nous sur la photo, travaille avec nous sur les prochaines vidéos. Donc, ça sera surveillé son apport dans le développement du visuel de Bioscope.
Puis là, justement, tu parles de prochaines vidéos, alors je comprends qu'il y a quelque chose qui s'en vient là pour Bioscope. Qu'est-ce qui s'en vient?
Ben dans le fond, actuellement, on est en montage pour le troisième vidéoclip. La sortie, on la prévoit pour début mars. Ça s'en vient bientôt. On a un autre tournage qui va débuter probablement en avril. Puis on a aussi le projet de sortir l'album en 2026, à l'automne 2026.
Oh yes.
Donc, puis peut-être accompagné de spectacles. Donc, beaucoup de projets là, pour Bioscope. Là. C'est effervescent.
Puis à quel endroit on peut trouver toutes ces informations-là?
Si on veut vous suivre, justement, là, sur votre ascension médiatique dans l'univers des réseaux sociaux.
Bien, on est partout, hein, comme c'est comme ça maintenant. Donc, on est, on est sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Bandcamp pour écouter, voir la vidéo. Pour écouter le single, bien, toutes les plateformes comme Spotify, Apple Music. On est sur Instagram, Facebook, tout on émet. Claude, tu peux en rajouter peut-être que j'oublie.
Je pense que je vais mentionner. Hein?
Ouais.
Donc, merci beaucoup. Je trouve que Noémie avait questions supplémentaires.
Merci à vous deux. C'est vraiment cool d'être à l'affût, justement, de nouveaux projets, de nouveaux projets de l'émergence musicale, puis de voir comment est-ce qu'on peut aller, justement, au-delà des boîtes puis des styles musicaux qu'on connaît déjà pour peut-être en inventer ou en réinventer de nouveau. Là. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que vous faites avec Bioscope, puis je trouve ça super innovateur. Là. C'est vraiment nice.
Bien, merci encore de nous avoir reçus à Chérie, j'arrive. Puis j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller voir le vidéo puis d'écouter le single.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bien là, j'ai envie, parce que là, la semaine passée, j'ai fait jouer justement Excuses. Je pensais même toi, Alice, tu l'as fait jouer un peu plus tôt aujourd'hui à ton émission. Les Affamés, nous avons l'émission d'information ici sur les ondes de 694. Fait que j'ai envie qu'on écoute peut-être Cowboy, qui est la première carte de visite de Bioscope. Merci grandement à vous deux, puis j'ai très hâte de voir la suite du projet. On écoute ensemble Cowboy de Bioscope. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3.
You are just so fine.
C'était Cowboy de Bioscope. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et là, il y a plein de nouveautés. Là je vous dis, là, on est fin, je vous l'avais dit en début de saison 2026, que plus on allait avancer dans la fin de janvier 2026, plus il allait avoir de nouveautés musicales fort intéressantes. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques nouveaux albums, mais aussi beaucoup de nouveaux singles qui sont parus dernièrement ici. Fait que voilà, j'ai envie de commencer avec Louis-Charles. Louis-Charles, si vous étiez à l'écoute de l'émission la semaine dernière, je vous ai parlé de la sortie de résidence qui a eu lieu à la Chapelle Spectacle. La Chapelle Spectacle qui est dans Vanier, dans le secteur, dans le quartier de Vanier, ici à Québec. On a pu voir et entendre 30 minutes par projet musical. Il y avait Uriel, Fleur de Peau ainsi que Louis-Charles. C'était vraiment toute qu'une soirée. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'allais à la Chapelle Spectacle. J'étais jamais allée. Et j'ai vraiment adoré mon expérience. Une super belle salle avec autant de l'espace. Ben, en fait, il y avait dégagé le parterre pour nous permettre d'être debout et de danser. Mais il y a aussi des espaces assis, là, vraiment en estrade pour nous permettre de profiter du spectacle. Mais assis, fait que voilà, il y a vraiment de l'espace pour tout le monde. Et là, Louis-Charles, ce projet de la ville de Québec a fait paraître son premier album, mais je dis premier album, mais il avait quand même sorti un EP il y a quelques années déjà. Là, on avait entendu Baby, micro-album qui avait paru en 2023. Et là, cet album-là était fort entendu, Louis-Charles II. Les gens qui étaient à la Chapelle Spectacle jeudi dernier ont pu entendre en primeur l'album au complet. Fait que ça, c'est pas rien. L'album au complet ainsi que... c'est ça. C'est vraiment... On était les premiers. Mais là, j'ai envie de vous faire jouer là, une de mes chansons préférées de l'album. Super album en passant. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter au complet. Mais j'ai particulièrement aimé la chanson Jeune Chien. Jeune Chien qui est le troisième titre de l'album Louis-Charles II de Louis-Charles. Fait qu'on écoute ça ensemble ici à Chérie J'arrive, saison de Chiz 94.3.
We'll be right back.
C'était Jeune Chien de Louis Charles. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3. On a le droit à quelques nouveautés du jour également en ce 20 janvier 2026. Il y a quelques projets musicaux qui ont sorti de nouveaux singles et j'ai envie de vous parler du projet post-punk de Toronto, Hot Garbage. C'est une partage aujourd'hui un nouvel extrait via Motlin qui s'appelle, j'avais tellement de le dire, oui oui ou. Donc W-E-W-U. Oui oui ou. Fait qu'on va écouter ça ensemble. J'aime toujours prendre le temps aussi de pas toujours écouter là, les nouveautés musicales, surtout quand c'est des projets musicaux que j'aime déjà, mais j'aime ça les découvrir avec vous en onde. Fait que on va écouter ça ensemble. Oui oui ou de Hot Garbage.
Yeah. extérieur. Le tir.
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Échos de la Résidence, le tout nouveau podcast présenté en collaboration avec le service de résidence de l'Université Laval et la radio Chiz 94.3 FM. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui vivent, travaillent et font battre le cœur de nos résidents et résidentes. Les Échos de la Résidence avec Narcisse, tous les lundis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Ouf, ok, on vient clairement d'arriver quelque part.
Préparez-vous à explorer.
T'as entendu ça? Nouvelle destination, nouvelle musique.
Accès autorisé.
On est arrivé où exactement?
Dans un monde qui te transporte depuis 10 ans et chaque nouveauté est une nouvelle escale.
Le monde d'Éric Arsenault, 10 ans. Les dimanches entre 19h et 21h à Chiz 94.3.
Fans de l'ombre vous invite à découvrir des autrices qu'on a trop souvent mises de côté dans l'histoire littéraire.
Chaque semaine, partez à la rencontre d'une autrice méconnue, oubliée, ayant écrit dans les marges ou n'ayant laissé pratiquement aucune trace.
Au programme, des recherches littéraires, des recommandations de lecture, un segment médical et des invités sporadiques.
Retrouvez-nous tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes des Chiz 94.3.
Bisous!
L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout, booster ta session.
Passe d'abord, c'est bien fait! Le tir est le but!
Ce mercredi 21 janvier, les Remparts de Québec visitent les Cataractes de Shawinigan à 19h sur nos ondes. Rejoignez Rick Loutier dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts Cataractes, ce mercredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3, votre émission du retour culturel où nous couvrons ensemble l'actualité des arts de la ville de Québec, mais d'ailleurs aussi. Et pour poursuivre avec nous, je suis très heureuse d'avoir avec moi à l'autre bout du film Ariane Roy-Poirier, qui est la directrice générale et artistique du festival Plein Écran, un festival de courts-métrages qui célèbre sa 10e édition cette année et qui a lieu du 21 au 31 janvier 2026 à Montréal et en ligne également. Bonjour, Ariane.
Bonjour.
Très heureuse de pouvoir parler avec toi du festival de court-métrage Plein Écran qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, célèbre sa 10e édition cette année. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas encore le festival Plein Écran, est-ce que tu peux nous parler de la mission du festival?
Oui, oui, oui. Je peux parler un peu de la genèse qui va nous amener aux 10 ans. Dans le fond, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que les films soient accessibles parce qu'au Québec, on fait du magnifique court-métrage, mais c'est un format qui est quand même difficile à voir, surtout en dehors de Montréal. Tu sais, quand il n'y a pas de festival qui se consacre vraiment à ce format-là, c'est difficile de l'attraper.
100%.
Donc, l'idée, c'était de mettre les films là où les gens sont. Donc, en 2016, ça, c'était sur Facebook. Donc, en 2016, le flash, l'idée de ce festival-là, c'est Patrice Laliberté, un cinéaste qui a eu cette idée-là parce que il était triste de voir son film, son court-métrage un peu là, rester sur une tablette là, puis pas être vu. Fait qu'il s'est dit, on met les films sur Facebook, c'est gratuit, c'est accessible, les gens sont déjà là, ils vont pouvoir les voir. Fait que l'idée, c'est que ce soit bien sûr facile d'accès, mais aussi d'accrocher des nouveaux publics parce que on est, ça passe dans notre fil, là, on les voit arriver sans nécessairement les chercher. C'est ça la beauté là, du réseau social initialement. C'était aussi l'idée d'échanger puis de pouvoir là, faire t'sais, partager avec le reste du public, mais aussi avec les cinéastes parce que c'est en ligne, donc c'est facile, peu importe où on se trouve. Fait que l'idée, c'est encore ça. C'est juste que cette année, pour célébrer la 10e, ben, on a décidé, on a pris la grande décision de cesser de diffuser sur les plateformes de Meta. C'est quelque chose qui se prépare, je dirais, depuis quelques années, mais là, vraiment, on a décidé de célébrer la 10e année comme on a envie que le futur de plein écran soit. Donc, sur notre site web directement, c'est pleinecran.com, les films vont être accessibles à chaque jour sur le site web directement. C'est très facile, c'est gratuit. Et il y a 4 films par jour et c'est pendant 24 heures que les films sont disponibles. Donc, c'est vraiment quand même l'idée d'un rendez-vous et d'un festival pour attraper les films quand ils jouent, aller voir la grille horaire et tout. Mais c'est complètement accessible. On essaie d'enlever toutes les barrières possibles pour que les gens puissent apprécier les magnifiques courts-métrages qu'on fait au Québec.
Et cette édition anniversaire réunit 39 films, dont 36 qui sont accessibles gratuitement en ligne partout au Canada. Et il y en a 32 d'entre eux aussi qui sont dans la compétition officielle, qui sont des films québécois. Et le festival, cette année, se décline autour de 4 thèmes qui caractérisent la programmation de cette année. Est-ce que tu peux nous parler justement des différents thèmes mis à l'honneur et comment ceux-ci seront présentés dans la programmation?
Oui, tout à fait. L'idée de Cinécran, c'est vraiment d'avoir une programmation qui est super inclusive, puis où on trouve vraiment de tout pour tous les goûts, pour que justement il y ait le plus de façon possible de tomber en amour avec le court-métrage. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 4 thèmes, mais qui sont plus des moods, je dirais. Donc, c'est vraiment, on y va par émotion. Il y a des films qui sont super réconfortants. Il y en a qui surprennent vraiment, donc qui sont surprenants. Il y a des films très, très intenses. Une belle année pour les films intenses. Et il y a des films qui sont absolument craquants, donc juste adorables. Et à chaque jour, on va retrouver les 4 émotions. Donc, ça nous permet vraiment de faire un voyage dans la journée quand on écoute les 4 films. C'est toujours en bas d'une heure, c'est très faisable. Ça nous permet de découvrir évidemment plein d'artistes aussi, hein. Si c'est les cinéastes émergents, émergentes de demain, fait que c'est vraiment cool aussi de pouvoir voir leurs premières armes.
Et aussi, on peut pas parler de l'ensemble de la programmation puis de tous les films qui sont là, mais j'ai quand même envie que tu nous parles peut-être de quelques cinéastes de la ville de Québec et de leurs films qui sont mis à l'honneur cette année. Quels sont les courts-métrages justement des cinéastes et réalisateurs de la ville de Québec que tu aimerais nous partager?
Oui, il y en a beaucoup en plus, mais je commencerai peut-être par notre film de clôture parce qu'on l'a choisi pour clôturer le festival parce qu'on l'aime beaucoup, bien sûr, c'est un coup de cœur, mais aussi on trouvait que ça donnait un bon ton à cette dernière journée. C'est un film qui s'appelle « Le Pogne » de Natasha Kwan, qui est réalisé par Nicolas Lachapelle, qui est à Québec. Et c'est un documentaire qui est un peu un mélange de films d'archives, de films d'enquête, true crime, où on va à la rencontre de plusieurs personnes à Natasha Kwan qui ont connu dans les années 80 une légende. Un homme qui s'habillait tout de cuir et qui s'appelait Ghislain et qui a disparu de façon un peu mystérieuse. Et dans le fond, dans le film, ben on apprend un peu sur lui, sur comme le rapport qu'il avait dans le village, puis le mystère aussi qui flotte toujours sur sa disparition. Mais c'est surtout des personnages tellement, tellement attachants. Ce sont des vraies personnes, on s'entend, mais oh mon Dieu, l'authenticité dans leurs paroles, c'est vraiment, vraiment un beau film. Ça nous fait découvrir un super beau coin de pays aussi, là, qu'on voit pas souvent.
Ouais,
ça,
les, c'est images, vraiment, les images, ah, c'est pour avoir vu le court-métrage, c'est vraiment, comme tu l'as bien décrit, c'est sous forme de documentaire, mais aussi sous forme, justement, d'entrevue, enquête, mm-hmm. où on va parler, justement, à différentes personnes qui ont côtoyé le punk de Natasha Kwan. Il y a également, là, des magnifiques images qui font toute la beauté aussi, là, du court-métrage, là, vraiment à mettre sur votre watchlist du Festival Plein Écran.
Oui, absolument. À ne pas manquer. Il y a un petit film de 2 minutes qu'il faut vraiment attraper qui s'appelle Angle mort de Charlie Guévremont. Donc, c'est un film étudiant qu'elle a fait. C'est une animation où elle nous parle d'un phénomène que moi, je ne connaissais absolument pas, qu'elle vit. J'ai comme même pas envie de révéler c'est quoi, parce qu'en 2 minutes, ça vaut la peine de garder, je crois, le punch. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un film d'animation colorée et adorable qui, honnêtement, nous en apprend beaucoup. Ça, je le recommande aussi. Vraiment, il y a Boîte à savon aussi de Jimmy Pettigrew qui est visuellement absolument incroyable. C'est un conte pour tous un peu, là, mais moderne. Donc, évidemment, c'est une course de boîte à savon avec des personnages ultra colorés. Les comédiens sont incroyables, sont très drôles, mais c'est surtout, c'est la direction artistique, elle est incroyable. Il y a énormément de travail dans un film comme ça. Là, on est vraiment comme dans des décors et des accessoires créés à la main. C'est vraiment, c'est assez magique comme film, en fait. Fait que ça aussi, je le recommande vraiment grandement. Il y a un film qui se passe à Québec, qui est fait par une cinéaste originaire de Québec, qui s'appelle Franny Éléonore Bernier, qui s'appelle Chez Ghislaine. Donc, Chez Ghislaine va nous amener à la rencontre d'une femme qui est un peu comme Robin des Bois de son quartier, là. Donc, elle revend à bas prix de la nourriture aux gens, là, qui en ont besoin dans son quartier, puis c'est super coloré et original, puis c'est le fun d'aller reconnaître le quartier et tout. Ça aussi, ça vaut vraiment la peine.
Wow, de tous des films, merci, ça m'a vraiment... J'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de tous les mettre dans votre liste de films à écouter pendant le Festival Plein Écran. On rappelle que la programmation du Festival Plein Écran change à chaque jour. Donc, à chaque jour, vous avez accès à 4 courts-métrages différents et ce, pendant 24 heures. C'est vraiment... j'adore vraiment le principe. Et tout le long du festival, chers auditeurs, auditrices et que cinéphiles, devrais-je dire également... Vous pouvez donner justement votre avis sur les différents films qui sont en compétition cette année. Donc, comment est-ce que le public peut justement donner ses impressions sur les différents films et peut-être que ceux-ci vont être justement couronnés et mis à l'honneur à la fin du festival?
Oui, bien, c'est super important. Pour nous, c'est quand même quelque chose de collectif, un festival. Puis même si on est à distance, on veut qu'il y ait cette idée-là d'échange. Donc, tu sais, on l'avait évidemment sur les réseaux sociaux, mais c'est important de l'avoir encore. Donc, sur notre site web, c'est possible de se créer un compte. C'est tout simple. C'est absolument gratuit, encore une fois. Puis, en créant un compte, ça vous permet de commenter les films. Les cinéastes vont très souvent être là, présents dans la section des commentaires. Donc, vont même pouvoir répondre aux questions des gens. Mais c'est aussi une belle occasion de dire à quel point vous aimez les films. Les cinéastes, ça leur fera toujours, bien sûr, plaisir. Puis quand on fait tout ça, quand on interagit avec les films, ben on vote en même temps pour le prix du public, parce qu'on remet un prix du public à la fin du festival qui va, dans le fond, couronner le film qui va avoir accumulé le plus d'interactions durant tout le festival. Fait que ce soit une réaction, un commentaire ou un partage, parce qu'on veut aussi que les gens partagent les films puis que ça fasse une belle chaîne de courts-métrages. L'idée, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui voient les films. Fait que c'est vraiment possible de s'impliquer à plein écran. Et on encourage.
Et ben en parlant de s'impliquer, tu sais, je trouve ça vraiment super beau que vous offrez justement la chance aux cinéphiles de voir ces courts-métrages-là gratuitement. Mais j'ai quand même envie de recommander aux auditeurs, auditrices que si ceux-ci aiment l'expérience plein écran, qui ont aimé les films et courts-métrages que ceux-ci ont vu, c'est quand même possible de faire un don aussi à plein écran.
Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, pour soutenir notre mission, parce qu'à l'année, on essaie que le court-métrage soit le plus visible possible et rejoigne le plus de public possible. On a plein d'autres beaux projets, mais c'est sûr que le festival, c'est notre moment fort. Mais on accepte tout à fait les dons avec grand plaisir. Ça nous aide beaucoup là, à continuer de propulser le court-métrage québécois.
Merci grandement, Ariane. Je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que la 10e édition du festival Plein Écran, festival de courts-métrages, commence dès demain. Donc, c'est du 21 au 31 janvier 2026. Vous pouvez avoir accès à la belle programmation en ligne. Sinon, il y a plein d'événements. Peut-être pour terminer, Ariane, brièvement, est-ce que tu peux nous dire, justement, à Montréal, quels sont les différents événements et activités qui ont lieu pendant le festival?
Oui, il y a quelques rendez-vous. On a la soirée d'ouverture déjà qui va avoir lieu demain, où seront présentés les 4 films du jour 1. Donc, les 4 films de la première journée, ne les cherchez pas en ligne demain. Là. En ligne, c'est vraiment le 22 que ça va commencer. Il y aura quelques autres rendez-vous. On a la projection qui fait ce qu'on fait pour la 2e année, qui est une projection de films un peu plus osée qu'on fait en salle. On a une projection commentée où on va comme aller explorer vraiment plus loin un des films de la programmation en salle encore une fois. Une classe de maître où on a la chance d'avoir Mathieu Rankin et Sophie Derasme en conversation. Et on fait aussi notre fabuleuse lecture de scénario que moi j'adore, qui est un rendez-vous à ne pas manquer. Si les gens ont envie de se déplacer, ça vaut la peine. On va lire des scénarios de court-métrage avec Anne-Elisabeth Bossé, notre porte-parole et vraiment une ribambelle de comédiens et comédiennes incroyables. Puis bien sûr, on finit avec la clôture et là, ce sera la projection du punk de Natasha Kwan, le fameux punk dont on a parlé, avec le show de princesses qui vont venir là, nous faire danser. Alors, c'est tous les rendez-vous à ne pas manquer, mais les films sont tous disponibles en ligne. C'est ça aussi qui est important de rappeler. On veut que le contenu soit accessible là, pour tout le monde.
Merci grandement, Ariane Roy-Poirier, directrice générale et artistique du Festival Plein Écran. Je vous souhaite une excellente 10e année anniversaire pour ce festival incontournable du court-métrage. Merci grandement.
Merci.
Et pour notre part, on va poursuivre en musique. On va écouter une petite nouveauté du jour. C'est la chanson Monsieur Kwan de Alphonse Bisaillon. Et par la suite, on va poursuivre la discussion sur le cinéma ensemble. Oui, oui, on va recevoir Florence Rousseau, qui est étudiante au baccalauréat en cinéma ici à l'Université Laval. On va parler de leur campagne de sociofinancement que ceux-ci ont créée pour soutenir la réalisation de leur court-métrage de fin d'études. On va parler de tout ça ensemble, mais avant, on va écouter la chanson Monsieur Kwan de Alphonse Bisaillon. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3.
Monsieur Kwan était professeur de philosophie. Mais le jour où les tanks ont roulé dans les rues de Saigon, il ne l'était plus. Le pouvoir se ressemble toujours malgré tous les noms qu'on lui donne. C'est pas demain qu'on verra un philosophe porter la couronne. Il aurait pris les armes, les trois enfants à charge. Ça pèse dans la balance de la mort. Alors il opta pour l'exil. Et l'orage de sa vie est venu s'amarrer à cette ville où ruisselle un étrange décembre de la couleur des cendres. Ce n'est pas la saison des pluies de Saigon. Désormais en langue étrangère, dépaysé de poésie, armé d'un abécédaire troué d'où les mots tombent chaque fois qu'il croit les saisir. Et sa grande philosophie l'encombre. À quoi peut-elle servir quand sa survie dépend de laver cette vaisselle qui sans cesse lui crie: fais-moi reluire, car je suis celle à qui tu dois ta deuxième vie. La métropole est une foire marchande, un carrousel vivant où jamais rien ne se donne. Pour l'habiter, il faut avoir quelque chose à vendre. Mais Monsieur Kwan n'a que ses deux mains. Alors il travaille en chaîne à l'usine Ford et puis Paris, hôtel Bénin, boulevard Saint-Jacques, en chaîne. Vidangeur de nuit, pharmacien de jour, enchaîné à cette ville qui n'a jamais sommeil. Et derrière ses mains salies par le travail, qui voit encore le philosophe? Souvent par accident. C'est ainsi qu'en somme Monsieur Kwan devint célèbre malgré lui. Quand après 15 ans de jours sans fin et toutes ses économies, il ouvrit un café qu'il nomma Drapeau de la fidélité, en l'honneur du Vietnam perdu. Et comme il était assidu, son café lui ressembla, et ses clients étaient comme les jeunes qui fréquentaient ses cours. Peu à peu, son restaurant se mit à fleurir, accueillir une foule de déshérités, de peintres, de philosophes en devenir, de poètes mineurs qu'on carte au seuil de la beauté. C'était le seul lieu dans le quartier où il leur était possible de manger à leur faim. Et quand ils n'avaient rien, endettés par leur loyer, Monsieur Kwan les servait gratuitement, en secret. Durant toutes ces années, ses prix n'augmentèrent jamais d'un seul sou. Et c'est ainsi qu'il contribua à faire vivre l'art et la philosophie dans sa ville. Et quand il y repense, Monsieur Kwan pleure. Parce que ce geste à peine.
C'était un extrait de la chanson Monsieur Kwan de Alphonse Bisaillon, disponible sur toutes les plateformes. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et on continue notre discussion cinématographique avec une étudiante de l'Université Laval, Florence Rousseau, qui est étudiante au baccalauréat en cinéma ici à l'Université Laval. Salut Florence!
Salut!
Oh, t'as peu? Bah, refais ça donc.
Salut!
Ah, voilà. Alors, Florence, vous êtes présentement, toi et sept autres cinéastes, en campagne de sociofinancement pour soutenir la réalisation de vos courts-métrages de fin d'études. Ce que j'ai trouvé super intéressant, je savais pas, c'est que le baccalauréat en cinéma et culture numérique a ouvert ses portes en 2022. Vous êtes officiellement la deuxième cohorte qui termine, justement, le programme. C'est quoi les défis auxquels vous faites face en tant que premier étudiant qui marque les premières étapes du développement du programme?
Bien, c'est ça. Le bac étant tout nouveau, c'est vraiment... Tout le monde est dans les premiers pas. Les professeurs comme les élèves. Fait que tout est à construire. La plupart des bacs en cinéma sont à Montréal. Fait qu'on est seul bac qui donne du cinéma à Québec. Fait qu'on est comme en compétition avec les bacs de Montréal. On essaye de se prouver qu'on peut t'sais, former aussi bien là, les étudiants. Puis tous les autres bacs, ils ont des campagnes de financement pour aider les étudiants à soutenir leurs films. Fait que là, il n'y en avait pas eu à date à l'Université Laval. Donc, on est la première cohorte à essayer de mettre en place une campagne de sociofinancement, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres cohorte à venir, de comme construire ça, ce genre de tradition de sociofinancement. Puis à date, ça va bien. Puis j'espère qu'on va pouvoir léguer ça à nos futures cohortes.
Mais je trouve ça vraiment important ce que tu dis, justement, parce qu'il y a un travail que vous faites présentement, vous le léguez justement aux prochaines générations d'étudiants, ouais. Étudiantes en cinéma et les cinéastes que vous êtes les cinéastes de demain. Vous êtes présentement, comme on dit, en campagne de sociofinancement pour soutenir la réalisation de vos courts-métrages. Il reste 12 jours à la campagne. Vous avez un objectif de 8 000 $, puis vous êtes presque arrivé. Il manque quelques centaines de dollars là avant d'arriver au monde. Peut-être pour ceux et celles qui ne sont pas comme moi, qui ne sont pas dans l'univers du cinéma, c'est quoi les différents coûts qui sont associés à la production d'un court-métrage? Puis comment est-ce que la campagne va vous permettre de soutenir votre travail?
En cinéma, c'est quand même assez coûteux de faire des courts-métrages. Même si on est étudiant, les coûts reliés à la production des courts-métrages sont 100% au réalisateur.
Ça
sort
de
notre poche. Puis, étant étudiant, on n'a pas infini d'argent à mettre là-dedans. C'est pour ça que la campagne de sociofinancement nous aide. Oui, l'université nous prête de l'équipement comme des caméras, des trépieds, des lumières. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Fait que ça, on est super reconnaissant d'avoir ça. Mais il y a quand même tout ce qui est la logistique. Donc, le repas. Les repas pour l'équipe, on a des équipes de 10 à 20 personnes que souvent, il faut nourrir, dîner, souper. Ça peut être des longues journées, là, fait aussi des collations. Le transport de nos membres de nos équipes, puis peut-être même aussi de nos acteurs. On fait parfois venir des acteurs de Montréal, fait que là, il s'agit de les transporter jusqu'ici, de leur offrir un hébergement aussi parfois. Puis une des parties les plus le fun de nos coûts, c'est tout ce qui est décor, costumes, maquillage, tout ce qui est la direction artistique, c'est des coûts assez chers, mais... c'est ça qui construit le film, puis c'est ça qui est comme tangible.
Ouais, puis qui donne la vision, justement, dans laquelle le cinéaste veut se réaliser, parce que, tu sais, vous présentez le travail de 8 finissantes, mais je veux dire, vous n'êtes pas seulement 8 finissantes dans le bac. Là.
Non, c'est ça. Dans le cours, on est à peu près une trentaine. Puis on utilise les gens dans la classe pour bâtir nos équipes, mais il y a des deuxièmes années, des premières années du baccalauréat qui nous aident. Tu sais, c'est ça, les fonds que vous donnez dans la campagne, ça aide pas seulement les réalisateurs, là, ça aide toutes les équipes, puis même des gens en dehors du bac, là, ça aide des acteurs à avoir des premiers rôles dans des films, des fois des acteurs moins connus, pour bâtir aussi leur portfolio, notre portfolio en tant que réalisateur ou en tant qu'éclairagiste, en tant que machiniste. Ça peut être c'est des projets qui nous servent à tous aussi. Là.
C'est très circulaire, là, puis c'est ce que je trouve super intéressant. Puis justement, toi et tes collègues, vous allez présenter le fruit de votre travail en mai au cinéma Le Clap. J'ai envie que tu nous parles un peu de ton film à toi. En fait, toi, tu tu t'inspires de la nouvelle La Héronnière de Lise Tremblay, où, dans lequel tu unis un peu tes passions pour la littérature et l'horreur de ce que j'ai lu. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Mais La Héronnière, c'est un recueil de nouvelles que j'ai lu l'hiver dernier, puis qui m'a vraiment inspirée par son univers super glauque, un peu horreur. Puis la nouvelle qui m'a le plus touchée, c'était celle de La Héronnière, qui nous plonge vraiment dans un univers d'un petit village où il y a beaucoup d'exodes ruraux. Les jeunes s'en vont du village, il reste juste les vieux, puis il y a comme une sorte d'aura de mystère qui s'installe à travers de plusieurs événements étranges qui se passent dans le village. Puis c'est pas mon premier court-métrage d'horreur. La Héronnière, ça va être mon troisième court-métrage indépendant. Mon premier court-métrage indépendant s'appelle Pamplemousse, puis il est passé au Festival Fantasia cet été, qui est un festival d'horreur assez le fun. Fait que c'est ça. C'était pas mon premier court-métrage. Je suis allée dans les choses que j'aime. J'aime ça quand c'est étrange, qu'il y a du mystère, qui n'est pas nécessairement résolu à la fin, mais là, on est en phase de montage pour le film, puis j'ai bien hâte de montrer ça là, en mai. Je pense que ça va donner de vraiment belles images. On a tourné en novembre, puis il y a eu la première neige. Fait que là, on avait toute la belle neige blanche sur le plateau, comme complètement fraîche, là, fait qu'on pouvait jouer avec les traces de pas dans la neige fraîche, puis c'est toutes sortes de petits clins d'œil comme ça que je pensais pas avoir nécessairement en novembre. Je pensais que ça allait être plus des feuilles, mais là, ça fait de beau avec la neige.
Oui, bien, c'est ça, je me demandais, parce que si vous présentez justement les films en mai, vous devez être rendu quand même un peu avancé là, dans la production, justement, là, du court-métrage.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on est 6 réalisateurs à avoir tourné jusqu'à date. Il en reste 2 films à tourner. Le film de Gabriel puis le film d'Alice, qui vont être tournés tous les deux en début février. Fait que c'est ça. Pour elles, ça leur donne un petit peu moins de temps pour faire le montage, mais on s'est tous divisé l'année par quelle sorte de film on veut faire. Il y en avait qui voulaient tourner le plus tôt possible pour avoir les feuilles d'automne, peut-être même l'herbe verte. Il y en a qui voulaient le gris de l'automne sale. Il y en a qui voulaient la neige de février. Fait qu'on on a tous trouvé notre bonheur avec un temps de l'année différent. Puis ça aide aussi les professeurs de ne pas avoir tous les mêmes films en même temps, parce qu'il faut qu'ils viennent sur les plateaux pour nous évaluer.
Ben oui, c'est ça. Ça doit faciliter la tâche. Justement, comme on dit un peu plus tôt, vous êtes présentement en campagne de socio-financement. Il reste 12 jours à la campagne. Est-ce que tu peux... C'est une campagne La Ruche.
Ouais.
Qui dit campagne La Ruche dit contrepartie. Donc, quand vous donnez un montant X, ben vous pouvez avoir accès justement à des contreparties. Est-ce que tu peux nous parler de ceci?
Oui, c'est ça. Avec La Ruche, on a réussi à créer plusieurs belles offres pour les gens qui donnent. Puis vu qu'on sait qu'on est dans un contexte étudiant, on a quand même des offres à petit prix qui peuvent être intéressantes à partir de 15 $. On peut même mettre votre nom au générique de tous les films pour vous remercier de votre don. Puis ensuite, il y a plein de petites choses le fun là, qu'on peut avoir. Il y a des sacs à l'effigie de notre association étudiante. Vous pouvez choisir une affiche du film de votre choix qu'on va pouvoir faire imprimer pour un certain montant. Puis on a des offres assez intéressantes aussi pour les entreprises. Et on est encore à la recherche de commanditaires pour la campagne de sociofinancement. Il y a la possibilité d'avoir d'être comme commanditaire de la projection finale en mai, ou bien d'être coproducteur des films, puis d'avoir votre logo au début, à la fin, puis d'être aussi considéré comme commanditaire de la projection de fin d'année. Que c'est quand même des belles offres là, que vous pouvez voir sur le site de La Ruche.
Une façon concrète de soutenir les cinéastes de demain. Et tout ça, je dis cinéaste, mais c'est tout ce qui englobe là, le milieu du cinéma, parce que tu l'as nommé, il n'y a pas juste les comédiens et comédiennes, il y a tous les gens qui font partie un peu de l'ombre, qu'on ne voit pas, qui sont derrière la caméra. Qu'est-ce que tu aimes le plus personnellement de cette forme d'art-là?
Mais je trouve que le cinéma, c'est comme la combinaison parfaite de mes intérêts. T'sais, ça peut contenir... Le scénario, c'est un peu comme la littérature. Les images, c'est comme des peintures, parfois. Là, ça englobe l'art, puis ça englobe aussi tous les sens. Tu peux entendre la musique, entendre les voix, tu peux voir les images. Tu peux comme... Il y a même parfois où tu peux presque toucher l'image quand elle est assez bien faite. Puis je pense que c'est vraiment... le médium presque parfait pour faire ressentir des émotions puis pour t'attacher au personnage. J'ai toujours été passionnée de cinéma, là, fait que c'est sûr que je suis biaisée sur le sujet, mais je pense que de s'intéresser aux courts-métrages qui se font ici à Québec puis de vouloir soutenir les cinéastes de la relève, ça peut faire une différence parce que c'est des films qui dans lesquels on parle comme on parle ici, que c'est la musique d'ici, c'est des créateurs d'ici, puis c'est ça. Je pense que ça peut aussi contribuer à notre identité là, en tant que Québécois, là, d'aimer notre propre culture puis de soutenir nos propres artistes.
Et les artistes aussi de La Relève. Si les gens qui sont à l'écoute veulent vous soutenir, dans le fond, c'est l'objectif est de 8 000 $. 8 000 $ égale 1 000 $ qui va aller à chacun des réalisateurs, réalisatrices pour soutenir leur projet. Comment est-ce qu'on peut vous trouver et vous soutenir?
Donc, c'est sur la campagne La Ruche, La Ruche Québec. Ben, le site web de La Ruche Québec. Puis le nom de la campagne, c'est Offrez des films pour les fêtes. Il reste 12 jours. On est à 92% de notre objectif en ce moment. Mais il faut vraiment l'atteindre parce que si on n'atteint pas 100% de notre objectif, nous, on n'a rien. Fait qu'il faut vraiment pousser chaque don compte. Là. On est vraiment heureux d'avoir autant des 15 $ que des entreprises là, qui décident d'être commanditaires. Ça fait vraiment la différence pour nous. Puis je pense qu'on va vraiment pouvoir faire une belle projection avec des beaux films qui reflètent vraiment notre pleine capacité là, en tant que cinéaste.
Je la partagerai sur les réseaux sociaux de Chiz Art pour faciliter justement l'accès au lien La Ruche et peut-être poursuivre justement la être à l'affût des diffusions justement des courts-métrages. On peut suivre directement l'association étudiante.
Oui, exactement.
Est-ce que tu peux dire le...
C'est l'AEC, donc A. EEC, l'Association des étudiants en études cinématographiques à l'Université Laval.
Merci grandement, Florence. Je suis très curieuse de voir le résultat de ces courts-métrages-là. Et je vous souhaite bonne chance pour la réalisation de ceux-ci et pour la suite de votre campagne.
Merci beaucoup.
Et pour notre part, on s'en va en courte pause publicitaire. Au retour, on va parler littérature avec votre chroniqueur, Alex Tremblay-Lamarche. Vous êtes toujours à l'écoute de Chéri, j'arrive, ici sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Bienvenue à votre session de braillage hebdomadaire. Ou pas. On sait pas. Une fois de temps en temps, là. Memo et Kevin vous présentent le meilleur de la musique emo d'hier, de maintenant et de demain. Sur les ondes de Chiz 94.3, quand ça nous tente.
Le festival Le Fuck Off est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présentée par SiriusXM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gabé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au fuckoff.com.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du Rock Ambition a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ampisson.com.
Étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois, du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Sinatra, Veranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sertaki, Charles Hives, Southern Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis 20h sur Cheese 94,3 FM.
Toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3 et nous a rejoint en studio pour la première fois de l'année 2026 votre chroniqueur littérature Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour!
Bonjour Noémie.
Très heureuse de te retrouver derrière le micro. On change pas une formule gagnante. Tu nous présentes aujourd'hui quatre ouvrages qui portent sur la grande ville de Montréal.
Exact. Donc, on va aller dans le développement urbain de Montréal, son histoire et des enjeux actuels. Et je te propose de commencer par une histoire des carrières de Montréal, des pieds noirs au Miron, de Guy Gaudreau.
Les carrières, est-ce qu'on parle... De quelle carrière on parle? Parce que le mot carrière peut avoir plusieurs significations quand même.
Oui, non, on ne parle pas des carrières professionnelles, on parle bien des carrières de pierre. La couverture est assez éloquente à ce sujet. On voit l'une des carrières de Montréal avec de la machinerie pour en extraire de la pierre. Le sujet peut sembler un peu a priori, abstrait ou loin des préoccupations contemporaines. T'sais, Montréal n'est pas aujourd'hui reconnu comme un endroit où on extrait des ressources naturelles en quantité importante. Or, au 19e siècle, c'était le cas. Montréal était beaucoup moins urbanisée qu'elle ne l'est aujourd'hui et il y avait des carrières un peu partout dans la ville qui procuraient du travail à bon nombre de travailleurs qui permettaient un enrichissement aussi dans certains cas de petits travailleurs qui étaient capables de se mobiliser pour aller chercher des ressources, louer des carrières ou en acheter et connaître une belle ascension sociale. Donc, j'aurais envie de dire c'est une histoire des ressources naturelles, de l'exploitation des ressources naturelles, mais c'est aussi une histoire sociale de Montréal parce qu'on s'intéresse aux travailleurs des carrières et c'est aussi une histoire urbaine parce que ces carrières-là, la plupart du temps, c'est un trou. On creuse, on extrait la pierre. Et au bout d'un certain temps, pour différentes raisons, soit ça peut être une raison financière, soit ça peut être une raison que, on exploitait ce qu'on avait exploité, soit c'est la ville qui a rejoint la carrière et que, ça devient plus hasardeux de l'exploiter parce que ça dérange les voisins, la carrière va arrêter de fonctionner. Et là, va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec cet immense trou?
C'est clair, oui.
Et assez malheureusement, j'ai envie de dire...
Souvent, on fait juste l'abandonner là, puis on oublie un peu le trou, puis il fait partie du décor.
Effectivement, mais dans bien des cas, on va leur trouver une utilité à ces carrières-là, et ça va être celle de servir de dépotoir. Parce que à mesure que le 19e siècle avance, la première moitié du 20e siècle, on a beaucoup de gens des campagnes environnantes qui migrent vers Montréal dans l'espoir d'y trouver un travail, entre autres dans les carrières, mais aussi dans toutes les industries qui sont en train de se créer à l'époque. Et se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets qui sont produits par des gens qui viennent habiter à Montréal? Avant, on était capable de gérer ça à plus petite échelle quand on était dans la campagne, puis les gens étaient un petit peu plus, pas autosuffisants, mais davantage près de ça. Or, là, on a une grande quantité de production de déchets, on cherche un endroit où les mettre, et on se dit, on a des immenses trous qui servent à rien, pourquoi ne pas en profiter pour en faire des dépotoirs? Et donc, ce que nous montre Guy Gaudreau dans son essai sur l'histoire des carrières de Montréal, c'est que ces carrières-là deviennent en grande partie des dépotoirs. Des dépotoirs qui vont déranger les gens parce que quand tu habites à côté d'une carrière, tu étais déjà peut-être un peu importuné par le bruit, la poussière, ce genre de choses-là. Mais si on vient installer un dépotoir à côté de chez toi, ou si, dans certains cas, c'est pas que tu es installé là, c'est que la ville continue de croître petit à petit, puis les carrières qui étaient un peu plus en périphérie se retrouvent à être dans la ville. Mm-hmm. Et donc là, y a des gens qui habitent autour et ces déchets-là sont assez dérangeants, les odeurs, les rats, etc. Et donc, il va y avoir des pressions des citoyens pour qu'on ferme ces dépotoirs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces anciennes carrières devenues dépotoirs? Des parcs. des grands parcs urbains. On est à la fin du 19e siècle, début 20e siècle.
Le revirement de situation auquel je m'attendais vraiment pas. Je sais pas pour vous, chers auditeurs et auditrices, mais je m'attendais pas à ce qu'on aille là. C'est super intéressant.
Mais donc, on est dans une époque où on a de plus en plus une mentalité un peu hygiéniste, une volonté de revitaliser la ville.
Ah, puis de verdir aussi, là, justement, dans tout. Je trouve ça beau de voir comment l'évolution des époques aussi, je trouve que ça a un beau parallèle à faire avec les différentes réalités auxquelles sont confrontées les différentes époques. Puis justement, avec le réchauffement climatique et tout ça, ben on n'a pas le choix de reverdir nos villes puis de les revitaliser de cette manière-là.
Tout à fait. Donc, ces parcs-là vont être aménagés sur des anciens dépotoirs pour être capables de donner un peu de verdure aux citoyens, d'embellir la ville et de régler ce problème-là des dépotoirs. Donc, c'est certains des parcs bien connus à Montréal, comme le parc Père Marquette, il y a le parc Frédéric Bac. Il y a plein d'autres parcs aussi qui sont aménagés sur d'anciennes carrières à Montréal, qui quand même assez tôt au 20e siècle et encore tout récemment avec le parc Miron. L'ancienne carrière Miron qui a été transformée en parc Frédéric Bac dans la dernière décennie. Donc, c'est, une histoire sociale de Montréal avec les conditions de vie des travailleurs des carrières. On parle des pieds noirs, un terme qui souvent renvoie plus à l'Algérie, mais c'était le surnom qu'on donnait aux gens qui travaillaient dans les carrières parce que, c'est un travail qui était quand même assez salissant. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans bien des ouvrages, on serait intéressé seulement à ceux qui extraient la pierre. Le travail dans une carrière, c'est tout un petit écosystème. Et donc, oui, il y a les gens qui extraient la pierre, mais il y a aussi les charretiers qui vont être responsables de transporter la pierre. Il y a aussi tout plein d'autres gens qui vont être investis là-dedans. On parle des tailleurs de pierre, on parle des carriers. Guy Gaudreau parle des conditions de travail de ces gens-là, parle un petit peu de syndicats naissants. On parle plus d'union à l'époque que de syndicats, de ces travailleurs-là qui veulent se protéger parce qu'ils ont quand même des conditions assez difficiles. Donc, c'est assez intéressant de voir, comme je mentionnais, toute cette histoire sociale de Montréal, cette histoire sociale des travailleurs et aussi cette histoire de la ville qui est en train de se faire, en train de se développer. Et donc, on y va avec un plan chronologique. Donc, d'abord, un petit peu les conditions de vie au milieu du 19e siècle quand on travaille dans une carrière. C'est quoi les carrières? Ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, on montre aussi les bâtiments qui ont été construits à partir des carrières de Montréal, notamment plusieurs bâtiments dans Maisonneuve, qui est une ville bourgeoise qui se développe fin 19e, début 20e siècle, qui vont être construits avec des pierres de la carrière Papineau ou de d'autres carrières à Montréal. Et donc, on voit le résultat de la construction de bâtiments à partir de ces carrières. Puis, comme je mentionnais, on suit un plan chronologique, donc les carrières de la Côte-Saint-Louis, les carrières aux alentours du parc Laurier qui se développe un petit peu après, puis les carrières du quartier Avenir qui s'appelle Villeray, et ainsi de suite. Et donc, on y va à la fois de manière chronologique, mais aussi de façon un peu géographique, parce que plus la ville se développe, plus les carrières, effectivement, s'éloignent et plus la ville rattrape les carrières. Et donc, c'est assez intéressant de voir l'histoire de ce sujet. A priori, tu sais, quand tu t'intéresses à l'histoire de Montréal, tu penses pas t'intéresser aux carrières, mais, comme je mentionne, ça sert à faire tout plein d'histoires de Montréal, l'histoire urbaine, l'histoire sociale, l'histoire de l'urbanisation, l'histoire environnementale. Et donc, c'est un petit peu le génie de Guy Gaudreau dans cet ouvrage-là, c'est d'avoir su combiner tout ça dans un ouvrage qui parle de bien plus que des carrières de pierre de Montréal.
Fort intéressant, du moins, juste en ta chronique, j'en ai appris déjà beaucoup d'informations que je ne connaissais pas sur la grande métropole qui est Montréal. On poursuit avec un deuxième ouvrage, Gentrification et résistance à Montréal, sous la direction de Marcos Angelovici. Et c'est quand même un ouvrage qui est quand même sobre du premier abord, mais dès qu'on se rapproche un petit peu plus devant de couverture, on a cette malheureusement célèbre phrase de France-Hélène Duranceau, qu'ils investissent en immobilier, une phrase qui fait beaucoup parler là, en 2023.
Oui, et c'est un ouvrage qui revient un petit peu sur cette controverse-là, mais qui revient surtout sur les différents processus de gentrification. On l'a vu dans les dernières années, il y a beaucoup de propriétaires qui font des rénovictions, beaucoup de gens qui se retrouvent avec des augmentations de loyers qui sont exorbitantes, qui n'ont pas les moyens de faire face à ça. Il y a une hausse de l'itinérance qui est en partie liée à ça, mais pas que. Et donc, ben, la gentrification est un petit peu sur toutes les lèvres depuis quelques années. L'ancienne ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, avait justement répondu aux gens qui n'arrivaient pas à payer leur loyer, qu'il y avait simplement à investir en immobilier.
Comme
puis que,
si c'était aussi simple que ça. C'est simple.
Et donc, quand j'ai vu la couverture du livre, j'ai tout de suite fait « Oh wow, quelle excellente couverture de livre pour un ouvrage sur la gentrification ». On parle des livres des presses de l'Université de Montréal. Bon, c'est des presses universitaires. La plupart du temps, on est dans des choses un peu plus sobres cherchent-moi à attirer l'attention. Or là, on a une très belle projection sur un bâtiment où on voit la ministre Duranceau en Marie-Antoinette avec le qu'ils investissent en immobilier. Donc, la couverture, elle frappe, elle punch et ça donne vraiment envie de se plonger dans l'ouvrage. Chapeau au graphiste des presses de l'Université de Montréal. Et qu'est-ce que nous dit l'ouvrage, justement? Bien, il nous parle de la gentrification à Montréal. Donc, c'est Marcos Ancelovici, un professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, qui, en 2017, si je ne m'abuse, a fait un colloque sur la question de la gentrification et a décidé d'inviter à la fois des spécialistes du monde universitaire, mais aussi des gens de groupes citoyens, des gens de groupes communautaires qui ont connu les affres de la gentrification ou qui y ont résisté pour réfléchir sur la question de la gentrification. Et ça nous donne un collectif qui permet d'en savoir plus sur la question.
C'est ça, c'est une œuvre collective, en fait. Là. Puis c'était une de mes questions, justement, parce qu'à une des parties du titre, c'est gentrification, mais aussi revendication.
Ouais.
Puis justement, ben, t'sais, y a plein de groupes citoyens ou des groupes de droit au logement qui sont très vocales à ce propos-là à Montréal, à Québec également, mais je suis curieuse de savoir si on leur donne la parole justement dans l'ouvrage.
Tout à fait. Ben, l'ouvrage se divise en trois parties. Une première partie qui s'intitule gentrification. Et donc là, on explique ce que c'est la gentrification. On explique que elle peut prendre différentes formes, que c'est assez ancien. C'est quelque chose qui existait déjà dans les années 1960, 70 et qui existait même avant. On remonte au Paris du baron Haussmann. Dans le fond, Paris à l'époque est encore une ville assez médiévale et on a le baron Haussmann qui veut moderniser la ville et lui il va emprunter pour détruire des pâtés de maisons, ouvrir des grandes artères, des promoteurs immobiliers vont venir acheter les terrains et par la suite ils vont construire des hôtels particuliers, des résidences qu'ils vont vendre ou qu'ils vont mettre en location et donc on voit tout le processus d'éviction de gens qui habitaient là depuis dans certains cas longtemps et qui sont chassés pour construire une ville plus belle, une ville plus noble, une ville avec des grandes artères, les grands bâtiments qui font que Paris est si belle aujourd'hui, mais qui se sont construits au détriment des résidents. On voit comment, dans certains cas, la gentrification, c'est en partie le fait de l'État. Montréal a connu bon nombre de quartiers qui ont été expropriés pour faire place à l'autoroute métropolitaine, pour faire place à des projets de ponts. Et donc, on a un grand projet de l'État qui s'en vient et on décide d'enlever des gens d'un quartier pour faire de la place à ce quartier, à ce projet-là. Donc, dans certains cas, c'est l'État qui gentrifie. Et dans d'autres cas, la gentrification qu'on voit davantage aujourd'hui, c'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde. Enfin, j'ai envie de dire monsieur, madame, tout le monde, mais un monsieur, madame, tout le monde d'une certaine classe sociale. Et donc, c'est un jeune couple qui décide d'acheter seulement un plex et d'y habiter, puis de rénover les deux autres appartements. Et c'est pas un grand promoteur immobilier qui vise à être capable de faire des centaines de milliers de profits. C'est juste un couple qui a acheté un plex et qui décide d'y habiter puis de rénover en même temps son logement et le logement au-dessus. Et comme il vient de le rénover, il augmente le loyer et il attire un autre type de clientèle. Et donc, ce genre de gentrification-là, elle n'est pas nécessairement mal intentionnée, mais au bout de quelques années, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui avaient des plus faibles moyens ont tranquillement été chassés. Aussi,
pour rénover ces logements-là, des fois, il y a des gens gens qui habitaient là avant, tu sais, puis on le sait, en tout cas, ben, peut-être que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais pour avoir réaccès justement à son logement, ben, tu sais, il y en a qui sont.
C'est compliqué.
C'est compliqué, puis il y en a qui font des petits tours de passe-passe aussi, là, pour avoir réaccès à ces logements-là. Fait que, ouais, c'est très complexe.
Et bien, dans cette première partie-là, ben, on voit aussi tout le phénomène de la condoisation dans un texte de Ted Rutland. Grosso modo, ben, le fait que le condo devienne de plus en plus populaire dans la deuxième moitié du 20e siècle va contribuer à la gentrification. Parce qu'avant, ben, t'as un bloc de logement, tu investis pas trop dedans, alors que là, ben, si t'as une occasion de vendre le bloc, de faire un maximum de profit, ben, il y a plusieurs propriétaires qui vont opter pour ça, puis ben, justement, transformer leur logement en condo. Et ben, si toi, t'es une propriétaire occupante, ben, tu vas vouloir que ton appartement, ben, en fait, ton condo soit chouette. Et donc là, on revient aux petits propriétaires qui, ben, gentrifient sans nécessairement le vouloir. Donc, c'est juste toi, dans ton condo, qui, ben, des moyens financiers, puis qui, ben, petit à petit, va amener, ben, un petit commerce où les cafés vont être vendus à 8$, où il va y avoir du pain bio, etc. Et de fil en aiguille, ben, les commerces historiques qui desservaient les populations plus vulnérables ferment parce que, ben, ils répondent moins à la nouvelle clientèle. Donc, tout le phénomène du condo a permis, entre autres, une certaine forme de gentrification, et c'est ce que met de l'avant Ted Rutland dans son texte. La deuxième partie, ben, parle des expériences. Donc, on voit, bon, les expulsions, les reprises de logement devant le tribunal administratif du logement. On voit également, bon, les déplacements dans des quartiers confrontés à la gentrification en se penchant, entre autres, sur le quartier Saint-Henri. Deux textes, d'ailleurs, dans cette section-là qui se penchent sur le quartier Saint-Henri. Marco Sanchelovici le dit d'entrée de jeu dans son introduction. Oui, il va y avoir plus de textes sur Saint-Henri que sur les autres quartiers de Montréal, mais Saint-Henri, c'est vraiment un quartier qui est un peu emblématique de la gentrification. C'est un quartier aussi, il y a eu des coups d'éclat violents pour revendiquer les droits des locataires, des vitrines de commerce qui ont été cassées, ce genre de choses-là. Donc, des nouveaux commerces un peu chics qui ont été vandalisés pour rappeler que, bon, ben, ces commerces-là, ils s'installent dans des quartiers qui étaient historiquement défavorisés et que, bon, ben, aujourd'hui, ben, ils privent une partie de la population d'accès à des commerces plus abordables.
C'est un quartier, justement, qui donne le ton sur la gentrification des autres quartiers, comme on peut observer, justement, à Hochelaga, présentement, et bien d'autres.
Exact. Et dans la dernière partie de l'ouvrage, Résistance, on a trois textes. Encore un autre sur Saint-Henri, si je ne m'abuse. La résistance populaire à Saint-Henri, un combat sans compromis de Patricia Vianney. Mais c'est ça, trois autres textes, aussi la socialisation comme réponse à la gentrification. Donc, tous les moyens qui peuvent exister pour créer des coopératives, ce genre de choses-là. Le droit au logement fragilisé, hausse de loyer, éviction et résistance. Donc, comment on est capable de faire face à la gentrification. Et finalement, ben, une dernière contribution de Marco Sanchelovici, résister à la gentrification, qui fait un petit peu le rap de la dernière section, puis qui résiste aux différentes manières qui existent pour résister à la gentrification.
Un ouvrage qui nous permet autant des pistes de réflexion que des pistes de solutions également. Ouais. C'est super intéressant. Prochain ouvrage, Hochelaga, jeux et regards sur le quartier et la gentrification. Justement, c'est ce que j'ai nommé quand tu as parlé. de l'autre ouvrage, c'est un ouvrage de Gilles Gaston Sénécal.
Oui, Gilles Gaston Sénécal, qui est professeur honoraire au Centre Urbanisation, Culture et Société, l'Institut national de recherche, plus communément appelé l'INRS. Et donc, il nous offre ici un ouvrage sur la question du quartier Hochelaga. Hochelaga-Maisonneuve, qui est un autre quartier de Montréal où il y a eu beaucoup de gentrification au cours des dernières années. Dans un premier temps, il revient un petit peu sur le quartier, son histoire. Hochelaga, à la base, c'était un quartier ouvrier. Maisonneuve, à côté, ça se voulait un quartier un peu plus bourgeois. Mais bon, pour la bourgeoisie canadienne-française, entre autres, finalement, ben, le quartier de Maisonneuve va moyennement fonctionner, mais le quartier d'Hochelaga va quand même assez bien fonctionner comme quartier ouvrier. Et après, ben, j'aurais envie de dire, c'est... C'est un ouvrage qui est un peu hybride. C'est à mi-chemin, j'ai envie de dire, entre l'observation, la description et l'analyse. Donc, c'est divisé en chapitres qui thématiques. Donc, après avoir expliqué brièvement ce qu'est la gentrification, Gilles Gaston Sénécal revient sur, bon, le quartier, son nom, puis ensuite sur différents aspects. C'est quoi la forme du quartier? C'est quoi les lieux qu'on y trouve? C'est quoi les espaces publics? Et bon, ben, par exemple, les espaces publics, quel rôle est-ce qu'ils jouent dans la gentrification du quartier, quand on a certains parcs qui sont plus bétonnés, qui sont versus des parcs avec plus d'arbres. C'est quoi la différence que ça fait? On s'intéresse aussi à la nature, on s'intéresse bon, aux gens qui vivent dans le quartier, aux ambiances. Et donc, on est dans un ouvrage qui est quand même assez descriptif, analytique, qui fait une espèce de scan du quartier d'Hochelaga, qui constate la gentrification qui l'explique un peu, mais on est vraiment plus dans une description d'un quartier qui a été qui subit la gentrification, alors que dans le premier ouvrage on est un petit peu plus dans l'analyse, dans la réflexion, et là on a un beau cas d'étude qui est présenté tout simplement.
Et pour le quatrième ouvrage, pour terminer cette chronique, c'est de la même maison d'édition. Le livre s'appelle « Adapter la ville au changement climatique, des expérimentations de concertation à Montréal ».
Oui, c'est un ouvrage collectif dirigé par Hélène Madénian, qui est postdoctorante à l'INRS, et Sophie L. Van Nest, qui est professeure à l'INRS. Donc, on change de sujet un peu. On sort de la gentrification pour s'intéresser à l'adaptation de la ville au changement climatique. Mais on reste encore une fois à Montréal. Et dans ce cas-là, on va du côté du projet La Chine Est. La Chine, bon, c'est un quartier qui, historiquement, a été un corridor industriel assez important au Canada. Donc, il y a tout plein d'industries qui se développent autour du canal de la Chine qui permet, bon, de relier l'est du Canada à l'ouest du Canada en passant à travers les rapides qu'il y avait à côté de Montréal. Et, ben, qui dit quartier industriel dit souvent, ben, des endroits qui ont été un petit peu laissés à l'abandon avec la fin des grandes industries, dit, bon, une gentrification également avec, bon, la transformation de tout ça en l'œuf, etc. Mais dit également qu'il reste des espaces et bon, qu'il y a une volonté de faire un éco-quartier avec ce qui reste là. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, de plus en plus, on cherche à intégrer les citoyens dans la manière dont on va penser les quartiers. Dans certains cas, c'est vraiment des organismes qui se créent pour être capable de que les citoyens se rassemblent et qu'il y ait une voix autour de la table de décision. On laisse notamment la place à un organisme qui s'appelle l'Atelier La Chine Est, un autre organisme qui s'appelle Imagine La Chine Est, mais aussi un autre organisme qui s'appelle le GRAM qui s'intéresse aux questions de l'environnement à Montréal. Et donc, on a tous ces organismes-là qui se penchent sur le débat de comment est-ce qu'on devrait aménager la Chine Est. Et on a également, bon, des professeurs d'université. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage, il laisse la parole aux deux. Donc, on va avoir des chapitres qui sont signés par des universitaires, par des chercheurs qui, bon, se penchent davantage sur l'analyse du processus pour penser un éco-quartier, des mouvements de concertation citoyenne, les enjeux à prendre en compte. Et on a ce qu'on appelle des vignettes. Donc là, on a des textes beaucoup plus courts la plupart du temps qui ben, sont le fait d'organismes, de personnes qui évoluent dans le milieu, de militants, etc., qui nous donnent leur point de vue sur la manière dont on devrait imaginer la Chine Est et dont on devrait prendre considération de ces enjeux environnementaux pour redévelopper ce nouveau quartier.
C'est des ouvrages qui sont fort inspirants puis qui peuvent, ben, qui j'espère peuvent permettre aussi des projets similaires à immerger dans d'autres grandes villes telles que Québec.
Oui, ben, honnêtement, j'ai lu ces quatre ouvrages-là en pensant toujours à Québec, mais ouais, aussi à Trois-Rivières, à Sherbrooke, etc. On a des carrières de pierre à Québec, notamment à Beauport, etc. Puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec quand elle ne sera plus exploitée? Puis même chose sur la question de la gentrification. Ben oui, c'est chouette que Saint-Sauveur se développe, mais ça vient également avec tous ces enjeux de gentrification qu'on retrouve à Saint-Henri qui sont décrits dans l'ouvrage de Marcos Ancelovici ou dans l'ouvrage de Gilles Gaston Sénécal sur Hochelaga. Et même chose avec la question des éco-quartiers. On se penche là-dessus à Québec. Et donc, c'est deux ouvrages qui vont intéresser ceux qui souhaitent en savoir plus sur Montréal, mais également ceux qui s'intéressent à l'urbanisme, l'histoire du développement des villes et la sociologie des villes actuelles.
Des sujets qui sont forts d'actualité. Merci grandement, Alex. Et c'est ainsi, chers auditeurs, auditrices, qu'on va terminer l'émission d'aujourd'hui. Pour notre part, on se retrouve dès demain à 16h, comme toujours, pour votre retour culturel alternatif ici sur les ondes de Chiz 94.3. Je vous laisse avec mes amis des architectes du son. Chérie, je suis arrivée.
Écoute locale, écoute Chiz 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans